Alors, La Belle Oiseuse, on le sait, est l'adaptation d'une nouvelle de Balzac qui est le chef-d'œuvre inconnu. Une nouvelle qui raconte la quête d'un chef-d'œuvre absolu, à la fois par le peintre qui s'escrime à le peindre, Fraenhofer, et puis par les amis de celui-ci qui désespèrent de pouvoir jamais le contempler, de pouvoir jamais contempler ce chef-d'œuvre. Cette nouvelle a d'abord été prépubliée en 1831 dans la revue L'Artiste, avant d'être remaniée et développée par Balzac en 1837, sous l'influence de Théophile Gautier notamment et de sa critique d'art. Balzac a alors étoffé l'intrigue initiale par tout un discours théorique sur la peinture et sur l'art, transformant ainsi le conte fantastique de 1831 en une sorte de bréviaire artistique. Et puis enfin, en 1845, l'auteur, Balzac, republie cette nouvelle en la faisant entrer dans la comédie humaine et en l'insérant parmi les études philosophiques aux côtés de La peau de chagrin, de La recherche de l'absolu ou encore de Louis d'Ambert, mais aussi aux côtés de deux autres nouvelles consacrées à des musiciens, Gambara et Massimila Doni. De sorte que Massimila Doni, Gambara et le chef-d'œuvre inconnu forment au sein des études philosophiques une sorte de sous-ensemble, hein, de trilogie consacrée au problème de la création artistique. La nouvelle de Balzac a donc été amplifiée au fil de son histoire avant de s'insérer dans le vaste édifice de la comédie humaine. Et il aurait pu être amusant, hein, de confronter la version primitive, plus brève de la nouvelle de Balzac, avec le film de 4 heures qu'en a tiré Jacques Rivette. Film fleuve qui avait été réduit à environ 2 heures lorsqu'il s'était agi de diffuser le film à la télévision en 1993. Alors bien évidemment, il était plus pertinent de se fonder sur la version définitive de la nouvelle de Balzac pour la confronter au film original de Rivette, dont le scénario est dû à Pascal Bonitzer, Christine Laurent et Rivette lui-même. Cette confrontation sera donc au cœur de mon enquête sur les modalités et sur le sens de l'intertextualité ou, pour utiliser un terme à la mode, de l'intermédialité balzacienne chez Rivette. Et au fil de cette enquête, on tâchera de bien garder à l'esprit que l'adaptation n'est pas une traduction univoque, supposant une sorte d'inféodation à l'œuvre source de la part du film, qu'il s'agirait d'évaluer en fonction de sa fidélité à l'œuvre littéraire, comme l'ont en effet montré de récentes réflexions sur la question de l'adaptation au cinéma, je pense notamment aux travaux de Jean-Louis Lautrat. L'adaptation relève plutôt d'un processus dynamique et polyphonique, d'un ensemble de trajectoires plurielles accomplies par le cinéaste à partir d'une référence qui s'assemble et s'hybride avec d'autres influences et qui se combine avec sa propre imagination créatrice. Alors penchons-nous d'abord sur les principaux choix et sur les principaux changements opérés par Rivette par rapport au chef-d'œuvre inconnu. Choix qu'il s'agira dans un premier temps de décrire avant de pouvoir les interpréter, d'autant que les modifications introduites par Rivette sont considérables. Ne touchez pas à la hache, film en costume de 2007 sera une adaptation très fidèle de La Duchesse de Langeais du même Balzac. La structuration de l'intrigue, ses différents épisodes, les dialogues, le texte même, parfois directement cité sous la forme d'intertitres ou de cartons, seront repris par Rivette, même si bien sûr le jeu des comédiens et la mise en scène valent réécriture et si Rivette, comme il le dit, transpose en termes cinématographiques l'écriture de Balzac. En tout cas, on est très loin d'une telle fidélité au texte dans La Belle Oiseuse, qui est d'ailleurs, précise le générique du début, une libre adaptation d'une nouvelle de Balzac, hein, la dite nouvelle n'étant pas explicitement nommée dans le générique de début du film. Le plus frappant, bien sûr, c'est d'abord le contraste entre la brièveté de la nouvelle et la longueur du film, notions qui ne sont pas seulement quantitatives et volumétriques, mais qui sont des critères esthétiques. La nouvelle, en effet, exploite la brièveté en construisant la narration et les effets d'accélération en fonction d'une chute qui sera fulgurante et dont le caractère énigmatique invitera cependant à une relecture de l'ensemble du texte, sur lequel une lumière nouvelle est en fait projetée par le dénouement. Le film, au contraire, étire le temps en de très longs plans séquences qui nous installent presque dans la durée réelle, des séances de travail du peintre Fraunhofer, interprété par Michel Piccoli, et de son modèle, Marianne, incarné par Emmanuel Béard. C'est le deuxième changement majeur à souligner. Le film de Rivette se construit au fond sur une absence ou sur une ellipse. Dans la nouvelle de Balzac, en effet, les séances de travail de Fraunhofer, qui s'est remis à son chef-d'œuvre La Belle Noiseuse grâce à la maîtresse de Nicolas Poussin, ces séances de travail chez Balzac ne sont racontées à aucun moment. On voit entrer la jeune fille dans l'atelier du peintre, puis l'on assiste à l'attente hein, fiévreuse de son amant, Nicolas Poussin, à la porte de l'atelier. Et puis enfin, Nicolas fait irruption chez Fraunhofer en compagnie de son ami Porbus, et il découvre enfin le chef-d'œuvre achevé. Signalons en outre que la durée, mais aussi la matérialité du travail du peintre, ont chez Rivette une importance cruciale. La bande-son du film à cet égard est éloquente. Les séances de pose et de travail sont filmées sans aucune musique. En revanche, on entend la plume crisser sur le cahier de croquis, le fusain frotter le papier, le pinceau épouser la toile. Pinceau qui est confié hein, à Bernard Dufour, peintre de la nouvelle figuration qui vient doubler Michel Piccoli quand il s'agit de filmer les mains et les gestes créateurs du peintre. Rivette met donc l'accent sur le travail concret de l'artiste, quand l'œuvre de Balzac se centre presque uniquement sur son discours, et dans cette nouvelle précisément, c'est d'ailleurs le discours et la réflexion théorique qui entraînent Fraunhofer à divaguer et l'éloigne du travail et de l'œuvre, alors que, comme le dit son compagnon Porbus, un peintre ne doit méditer que les brosses à la main. Le film se concentre par ailleurs sur la relation complexe du peintre avec son modèle, relation qui, là encore, est à peine esquissée chez Balzac, où est très rapidement évoqué le coup d'œil d'artiste que pose Fraunhofer sur la maîtresse de Poussin. Et puis, d'autres changements interviennent encore chez Rivette dans le système des personnages. On retrouve Nicolas Poussin, appelé dans le film Nicolas Bartal. On retrouve également Porbus, qui est chez Balzac le peintre hein, flamand Franz Porbus, célèbre portraitiste d'Henri IV, et qui devient chez Rivette le collectionneur de tableaux Balthazar Porbus. Balthazar étant, c'est peut-être pas tout à fait anodin, Balthazar étant le prénom du héros de la recherche de l'absolu, Balthazar Claës, chez Balzac. Gillette devient Marianne, prénom que porte l'épouse de Gambara dans la nouvelle du même nom de Balzac, hein, jeune femme qui se voit en quelque sorte sacrifiée à l'art. Fraunhofer, lui, devient Édouard Fraunhofer, surnommé Fréno par sa femme. Et quant à cette dernière, Lise, interprétée par Jane Birkin, c'est un personnage créé de toutes pièces par Rivette, de même que Julienne, la sœur de Nicolas, qui est jouée par Marianne Denicourt et qui n'intervient d'ailleurs que dans le tout dernier quart hein, du film. Dernier changement important à souligner, Balzac situe l'action de sa nouvelle au début du XVIIe siècle, pendant les premières années de la régence de Catherine de Médicis, et à Paris. La maison de Fraunhofer se trouve quelque part près du pont Saint-Michel, tandis que le film de Rivette, lui, se passe à l'époque contemporaine, hein, dans les rares scènes où elle n'est pas nue, les jeans d'Emmanuel Béard sont très années 90. Cela dit, le contexte temporel a en fait assez peu d'incidence sur le film, qui paraît d'une certaine façon désancré d'un espace-temps précis. Un carton au début indique que l'action commence un lundi de début juillet, sans autre précision. Et si le lieu, l'Hérault dans le sud de la France, avec ses cigales et son beau soleil, si le lieu a toute son importance dans les scènes d'extérieur, en revanche, les longues séances d'intérieur dans l'atelier de Fraunhofer tentent à couper les personnages du monde extérieur. D'un côté, donc, on assiste à toute une série de changements majeurs. D'un autre côté, la référence balzacienne est maintenue avec une certaine ostentation. Dans l'intrigue elle-même, bien sûr, la quête acharnée d'un chef-d'œuvre qui finalement sera dérobé au spectateur. Référence balzacienne reste aussi maintenue, bien sûr, dans le nom des personnages, malgré les déplacements qu'on a indiqués, et puis dans le titre du film, qui reprend le titre du tableau de Fraunhofer chez Balzac. Le peintre avait commencé ce tableau en faisant le portrait d'une courtisane, Catherine Lescaut, qu'on surnommait la Belle Noiseuse, c'est-à-dire la Belle querelleuse, cherchant-noise voulant dire chercher querelle, selon une étymologie qui est rappelée dans le film de Jacques Rivette. Alors, après avoir décrit ces choix et modifications opérés par le cinéaste, il convient à présent de s'interroger hein, sur le sens de ces changements conjugués au maintien évident de l'empreinte balzacienne. Dans cette optique, je voudrais d'abord revenir sur l'imaginaire de l'artiste et de la création artistique que met en œuvre Rivette, imaginaire qui s'ancre, qui se combine, qui s'affirme à partir ou en compagnie de l'imaginaire de Balzac. Notons premièrement que chez l'un et l'autre, il est question de peinture, mais aussi d'autres formes d'art. Il est question d'un peintre, mais aussi de tout artiste. Rivette, cinéaste, filme un personnage de peintre qu'il emprunte à un écrivain. Et cet écrivain lui-même, Balzac, on le sait, a projeté dans le peintre Fraenhofer une large partie de lui-même. Et par ailleurs, ce peintre, il l'a entouré d'autres artistes, ces musiciens dont on parlait tout à l'heure, Gambara et puis le musicien dont le nom m'échappe de Massimi Ladoni. Et puis, au sein de la comédie humaine, bien évidemment, toute une série d'artistes de tous bords hein, tiennent compagnie au peintre Fraenhofer et aux musiciens qui l'entourent, notamment des personnages d'écrivains comme Daniel d'Arthez, par exemple. On sait aussi que le chef-d'œuvre inconnu de Balzac a été très fortement inspiré par un conte d'Hoffmann qui s'appelle La leçon de violon, où c'est un musicien, un violoniste, qui incarne l'artiste génial menacé d'être dévoré par son art et de basculer dans la folie. Cela nous convainc donc de la dimension interartistique inhérente au film de Rivette comme à sa source balzacienne, et on peut rappeler à ce sujet que l'époque romantique a fortement élaboré le mythe d'une synthèse ou d'une fusion entre les différents arts. Au-delà du peintre et même si la peinture hein, fait l'objet d'une réflexion spécifique aussi chez Rivette comme chez Balzac, on peut donc dire que c'est malgré tout de la création artistique en général qu'il est question. Or, la Belle Noiseuse comme le chef-d'œuvre inconnu conçoivent et représentent cette création comme une quête totale, absolue et par là même dangereuse et destructrice. Sous ces deux avatars, Fraenhofer cherche la perfection et le dépassement de toutes les tentatives antérieures, à la fois les siennes et celles d'autrui. Mais plus encore qu'un portrait idéal, Fraenhofer veut créer ou recréer la vie en un fantasme démiurgique qui le met en rivalité avec Dieu lui-même. Le Fraenhofer de Rivette affirme par exemple « Nous voulons la vérité en peinture, la vérité cruelle. Si je vais au bout, il y a le sang sur la toile. » Un fantasme de totalité à la fois organique et cosmique s'exprime aussi très clairement dans une tirade du peintre qui intervient à peu près au milieu du film, alors que sa quête a pris un tour obsessionnel et quasi frénétique. Fraenhofer dit à Marianne « Je veux savoir, voir ce que vous avez dans le corps. Je veux plus, je veux tout, le sang, le feu, la glace qui sont dans votre corps, je les ferai sortir. » Et cette expression est intéressante parce qu'elle est au fond une sorte de glose assez précise d'une formule célèbre de Balzac disant « La mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. » L'exprimer, c'est-à-dire, au sens propre, la faire sortir. Fraenhofer continue « Je saurai ce qu'il y a à l'intérieur, je veux l'invisible, plus de seins, plus de cuisses, plus de cul. » Les tourbillons, les galaxies, le grand œil bleu des origines, c'est ça que je veux dès le début. Il ne s'agit donc pas au moyen du portrait de saisir la ressemblance du modèle, hein. Une telle formulation serait parfaitement désuète et en deçà de la réalité. Il s'agit de traquer le secret de la vérité et de la vie, l'arcane de la nature, comme dit Balzac, le mystère des origines, cette pierre philosophale que le Fraenhofer de Balzac, mais aussi tous ces grands chercheurs d'absolu, Balthazar Claës, Raphaël de Valentin dans La peau de chagrin, ou encore Louis Lambert, le philosophe inconnu, s'acharne et se tue à trouver. Par cette quête démesurée, Fraenhofer, comme d'autres créateurs ou penseurs de la comédie humaine, fait le malheur de son entourage. Dans le film de Rivette, le personnage de Lise rappelle à plusieurs reprises combien il est périlleux de vivre à ses côtés. « Faites attention, dit-elle par exemple à Marianne, Il fait passer son travail avant tout, ça peut faire des dégâts sur les gens. Cela dit, c'est d'abord lui-même que l'artiste met en danger, car il est poussé par une puissance, voire une fatalité, hein, plus forte que sa volonté et qui semble émaner de l'œuvre elle-même. Celle-ci se voit dotée chez Rivette d'une force quasi autonome, lorsque Fraunhofer, par exemple, dit à Marianne « Vous n'êtes pas libre, et moi non plus. C'est pas moi qui le veux, c'est la ligne, c'est le trait. Je veux rien, moi, c'est le tableau qui veut qui nous embarque dedans. » Et comme il l'a souligné d'emblée, pour se mesurer au chef-d'œuvre, il faut courir des risques, il faut une force héroïque pour résister à cette lutte. L'art est donc bien représenté chez Rivette, comme chez Balzac, sous les traits d'un combat acharné, le risque majeur encouru par l'artiste étant en définitive d'être vaincu par la chimère et de sombrer dans la folie. Et dans le film, la fascination, l'espèce de puissance d'absorption exercée par l'œuvre, est bien montrée par les accès de distraction et presque d'hébétude de Fraunhofer et par la sorte de possession que semblent éprouver les deux personnages, le peintre et son modèle, enchaînés hein, et pris par une sorte de violence croissante de leur relation et de leur entreprise. La folie condamne à l'échec, inverse le génie en impuissance, et cette alternative, hein, ou la perméabilité de cette frontière entre le génie ou la folie, l'hésitation entre ces deux pôles, c'est ce qui donne en fait au chef-d'œuvre inconnu de Balzac sa coloration fantastique, hésitation, incertitude ou angoisse qui culmine dans le dénouement de la nouvelle que je vous propose de lire ensemble. Donc le Fraunhofer vient d'achever enfin son chef-d'œuvre et Porbus et Poussin vont pouvoir se précipiter dans l'atelier. Entrez, entrez, leur dit le vieillard rayonnant de bonheur, mon œuvre est parfaite, et maintenant je puis la montrer avec orgueil. Jamais peintre, pinceau, couleur, toile et lumière ne feront une rivale à Catherine Lescaut, la belle courtisane. En proie à une vive curiosité, Porbus et Poussin coururent au milieu d'un vaste atelier couvert de poussière, où tout était en désordre, où ils virent çà et là des tableaux accrochés au mur. Ils s'arrêtèrent tout d'abord devant une figure de femme, de grandeur naturelle, demi-nue, et pour laquelle ils furent saisis d'admiration. « Oh, ne vous occupez pas de cela, » dit Fraunhofer, « c'est une toile que j'ai barbouillée pour étudier une pose. Ce tableau ne vaut rien. Voilà mes erreurs, » reprit-il en leur montrant de ravissantes compositions, suspendues au mur autour d'eux. À ces mots, Porbus et Poussin, stupéfaits de ce dédain pour de telles œuvres, cherchèrent le portrait annoncé, sans réussir à l'apercevoir. « Eh bien, le voilà, » leur dit le vieillard, dont les cheveux étaient en désordre, dont le visage était enflammé par une exaltation surnaturelle, dont les yeux pétillaient, et qui haletait comme un jeune homme ivre d'amour. « Ah ah !» s'écria-t-il, « vous ne vous attendiez pas à tant de perfection. Vous êtes devant une femme et vous cherchez un tableau. Il y a tant de profondeur sur cette toile, l'air y est si vrai que vous ne pouvez plus le distinguer de l'air qui nous environne. Où est l'art ? Perdu, disparu. Voilà les formes mêmes d'une jeune fille. » N'ai-je pas bien saisi la couleur, le vif de la ligne qui paraît terminer le corps? N'est-ce pas le même phénomène que nous présentent les objets qui sont dans l'atmosphère comme les poissons dans l'eau, admirés comme les contours se détachent du fond? Ne semble-t-il pas que vous puissiez passer la main sur ce dos? Aussi, pendant 7 années, ai-je étudié les effets de l'accouplement du jour et des objets. Et ses cheveux, la lumière ne les inonde-t-elle pas? Mais elle a respiré, je crois. Ce sein, voyez, ah, qui ne voudrait l'adorer à genoux. Les chairs palpitent, elle va se lever, attendez. Apercevez-vous quelque chose ? Demanda Poussin à Porbus. Non, et vous ? Rien. Les deux peintres laissèrent le vieillard à son extase, regardèrent si la lumière en tombant d'aplomb sur la toile qu'il leur montrait n'en neutralisait pas tous les effets. Ils examinèrent alors la peinture en se mettant à droite, à gauche, de face, en se baissant et se levant tour à tour. « Oui, oui, c'est bien une toile, » leur disait Fraunhofer en se méprenant sur le but de cet examen scrupuleux. « Tenez, voilà le châssis, le chevalet. Enfin, voici mes couleurs, mes pinceaux. » Et il s'embarra d'une brosse qu'il leur présenta par un mouvement naïf. « Le vieux, l'on se connaît, se joue de nous, » dit Poussin en revenant devant le prétendu tableau. « Je ne vois là que des couleurs confusément amassées et contenues par une multitude de lignes bizarres qui forment une muraille de peinture. »« Nous nous trompons, voyez, » reprit Porbus. En s'approchant, ils aperçurent dans un coin de la toile le bout d'un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs, de tons, de nuances indécises, espèce de brouillard sans forme. mais un pied délicieux, un pied vivant. Ils restèrent pétrifiés d'admiration devant ce fragment, échappé à une incroyable, à une lente et progressive destruction. Ce pied apparaissait là, comme un torse de quelque Vénus en marbre de Paros, qui surgirait parmi les décombres d'une ville incendiée. « Il y a une femme là-dessous, » s'écria Porbus, en faisant remarquer à Poussin les couches de couleurs que le vieux peintre avait successivement superposées en croyant perfectionner sa peinture. Ce dénouement, disait-on, a fait couler beaucoup d'encre, hein, et certains ont voulu voir de la part de Balzac une sorte de préfiguration visionnaire de l'art abstrait. Bon, pourquoi pas. En réalité, si on met cette scène en parallèle à d'autres, de la comédie humaine et la quête de Fraunhofer, pardon, en parallèle avec d'autres entreprises démiurgiques et créatrices de la comédie humaine, c'est bel et bien l'échec, hein, de la quête qui est montré. Et c'est, pour reprendre des formules de Balzac, l'art tuant l'œuvre, ou l'excès, la surabondance du principe créateur, qui finit par tuer la création, hein, et conduit à l'échec. Puisque, pour reprendre cette phrase qu'on a déjà citée de Porbus, qui est lui un peintre, disons, plus raisonnable, un peintre ne doit méditer que les brosses à la main. En tout cas, Rivette trouve de ce dénouement un équivalent qui me semble particulièrement intéressant. Dénouement, ou plutôt premier dénouement, hein, puisque on y reviendra. Le film de Rivette comporte d'une certaine façon deux dénouements et trouve deux équivalents à la nouvelle de Balzac. Comme chez Balzac, le chef-d'œuvre aura eu quelques spectateurs, hein, très peu nombreux. Chez Balzac, on l'a dit, Poussin et Porbus, ainsi que le modèle lui-même. Et puis, chez Rivette, outre la petite Magali, hein, qui aide le peintre à son travail de maçonnerie, Marianne elle-même, et puis également Lise, hein, qui d'ailleurs assez mystérieusement, après avoir regardé le tableau, apposera au dos de celui-ci une petite croix à côté de la signature du peintre. On reviendra sur ce geste. En tout cas, dans ce dénouement, au premier dénouement du film, hein, on voit que l'atmosphère fantastique, très présente chez Balzac, prend là aussi consistance, à cause de l'étrangeté du geste lui-même du peintre, en murant le chef-d'œuvre auquel il est enfin parvenu, et puis à cause aussi de la du fait que ce geste d'emmurer quelque chose, ou plutôt quelqu'un, s'adresse justement plutôt habituellement à une personne vivante, hein, qu'il s'agisse des mythes antiques ou des romans gothiques. C'est d'ailleurs généralement une jeune femme qui se voit emmurée vivante. Là, il y a peut-être d'ailleurs une forme de réminiscence, hein. On pense par exemple au mythe d'Antigone, où une jeune fille se voit emmurée vive. En tout cas, pour conclure sur ce point, le caractère absolu de la quête artistique, qui engage toute l'existence de l'artiste et qui lui fait courir des risques majeurs, et puis la frontière indécise séparant la folie du génie, l'angoisse qui en ressort, sont au cœur de la Belle Noiseuse comme de sa source balzacienne. Et on soulignera d'ailleurs que l'ensemble des personnages de créateurs de Balzac semble en fait se fondre dans l'imaginaire de Rivette pour donner corps au mythe de l'artiste. En 1831, lorsque la nouvelle de Balzac était parue dans la revue L'Artiste, elle avait presque un but de propagande. Il s'agissait justement d'imposer la figure moderne de l'artiste romantique, et à cet égard, une critique, Nathalie Heinisch, parle justement à propos du chef-d'œuvre inconnu d'un véritable mythe fondateur. Ce mythe, Rivette le réactualise, en pensant probablement à d'autres figures encore d'artistes fictifs, comme par exemple le Claude Lantier de l'œuvre, roman de Zola qui était paru en 1886, dont la fable est assez proche en fait du chef-d'œuvre inconnu, et puis également des artistes bien réels, hein, tels que Cézanne ou Van Gogh, dont l'existence avait pu se fondre là encore dans la pensée de Rivette pour constituer ce mythe de l'artiste qu'il revisite avec la Belle Noiseuse. La référence balzacienne nourrit donc fortement le mythe de l'artiste, mythe qui se trouve déconstruit par ailleurs à certains égards, comme déjà chez Balzac, puisque Balzac n'occulte pas non plus les côtés grotesques de son personnage, et à travers le regard extérieur de Poussin et de Porbus, il le démythifie autant qu'il l'idéalise. Quant à Rivette, Dans le second et véritable dénouement de son film, il propose une relecture de la démarche artistique qui nous invite probablement à relativiser cette démarche au lieu de l'absolutiser. Alors nous allons y revenir, mais avant cela, dans une dernière partie de mon propos qui sera brève, je souhaiterais revenir sur un autre réseau de relations et de motifs qui lie la belle noiseuse au chef-d'œuvre inconnu, en m'intéressant au thème de la collaboration, mais aussi de la rivalité, considérations qui m'amèneront à nuancer ce que j'ai dit un peu plus tôt du caractère unifié ou unitaire de l'imaginaire de la création artistique, considérations qui me permettront aussi de revenir in fine à la façon dont Rivette envisage le geste d'adaptation. La question de la collaboration est centrale dans le film de Rivette, dans la mesure où le peintre a besoin de son modèle, Marianne, pour parvenir au chef-d'œuvre. Et celle-ci, réciproquement, a besoin du peintre, semble-t-il, pour accéder à une forme de vérité ou de révélation sur sa propre vie. L'investissement obsessionnel du modèle est bien rendu par le jeu intense et parfois, pourrait-on dire, un peu mélodramatique d'Emmanuel Béard, et par son obstination à être peinte. C'est elle qui contraint Fraenhofer à reprendre les pinceaux lorsqu'il est menacé par le découragement. « Vous m'avez embarqué, vous ne pouvez pas me laisser comme ça, toute seule, dans le vide », lui dit-elle alors. Et la souffrance qu'elle ressent du potentiel échec du créateur prouve qu'elle est devenue, en fait, elle aussi sa créature, recevant de lui sens et existence. Cette relation du peintre et de son modèle pourrait s'interpréter comme une métaphore de la relation du cinéaste à son actrice. Rivette a d'ailleurs fait explicitement cette analogie dans la conférence de presse qu'il a donnée lors de la sortie du film à Cannes. À ce moment-là, il explique notamment comment c'est une interview d'Isabella Rossellini dans Marie-Claire, je crois, qui a fait cristalliser chez lui l'idée du film. Isabella Rossellini qui était à la fois actrice et modèle. Elle expliquait, raconte Rivette dans cette conférence de presse, Isabella Rossellini expliquait que pour elle, le travail de modèle est aussi important que celui de la comédienne devant la caméra. Et ce fut, ajoute-t-il, le moteur de l'histoire. Et puis dans un entretien plus récent, datant de 2005, Rivette déclare encore que, je le cite, « la nudité est d'une certaine manière le stade le plus clair de l'état dans lequel est mis le comédien dans le face-à-face avec la caméra ». Tout le film peut donc être vu comme une sorte de documentaire sur son propre tournage, hein, conformément à une idée qui a été exprimée par Rivette lui-même. Je ne sais pas si c'était au sujet d'un film en particulier ou de ses films en général. Cela dit, cette relation peut également, donc cette relation entre le peintre et son modèle, hein, qui peut être vue comme une métaphore de la relation entre le cinéaste et l'actrice, cette relation peut également être vue comme une relation entre le cinéaste et l'écrivain, entre le film et l'œuvre littéraire qui est sa source d'inspiration. Marianne, dans le film, c'est quelque chose qui apparaît assez fugitivement, mais qui apparaît quand même. Marianne est écrivain ou se veut écrivain. Elle a écrit un roman pour adolescents dont le titre est « Un secret défense aux yeux d'or », allusion évidente au titre d'une autre nouvelle de Balzac, « La fille aux yeux d'or ». La relation du cinéaste à son modèle littéraire est donc manifestement au creux du film. Pourtant, comme on l'a déjà suggéré, cette relation est aussi dangereuse que féconde. La prostration, l'anéantissement de Marianne résulte de son engagement aux côtés de Fraenhofer, Fraenhofer qui l'utilise, qui l'instrumentalise, qui la manipule froidement, parfois au risque de la désarticuler, bien plus qu'il ne l'admire et qu'il ne la désire. Et en revoyant le film, j'ai eu l'impression que paradoxalement il y avait très peu d'érotisme dans ce film et dans les relations du peintre à son modèle. Finalement, le peintre de Rivette, on l'a vu, emmure le portrait qu'il réalise, il l'escamote, il le fait disparaître, en un geste qui, on l'a dit, pourrait cibler une personne vivante. De façon plus générale, la violence, le conflit, la jalousie sont partout dans le film, une hostilité latente et parfois manifeste sépare le peintre de son modèle, celle-ci est par ailleurs en rivalité avec la femme de Fraenhofer, personnage créé par Rivette, dont on apprend qu'elle a été le modèle du peintre avec qui il a commencé son fameux tableau de la belle noiseuse. Et le choix même de ce titre, la belle querelleuse ou, pour reprendre la libre traduction de Lise dans le film, la belle chieuse, ce titre même, inscrit la violence, hein, le conflit, au cœur du film. Et ce sème de la violence, du conflit, on le retrouve aussi dans la guerre qui se déclare entre Nicolas et Marianne, après que Nicolas a accepté de laisser poser Marianne pour Fraunhofer. Entre la vie et la peinture, entre la femme de chair et la femme peinte, règne enfin jalousie et conflit, comme le montrent différents commentaires de Marianne et de Lise, qui font écho aux commentaires de Gillette dans le chef-d'œuvre inconnu. « C'était moi ou la peinture », dit Lise par exemple. Dans la nouvelle de Balzac, la lutte inhérente à la quête artistique, le conflit entre l'art et la vie, débouche sur un dénouement tragique. Confronté à l'échec de son entreprise et à l'impossibilité d'étreindre son idéal, Fraunhofer, très peu de temps et de lignes après le long passage qu'on a lu, Fraunhofer se suicide, ce que suggèrent sans ambiguïté les tout derniers mots de la nouvelle. Le lendemain, Porbus, inquiet, revint voir Fraunhofer et il apprit qu'il était mort dans la nuit après avoir brûlé ses toiles. Le dénouement choisi par Rivette est tout différent et semble quant à lui esquiver le tragique. Donc il est temps de venir à ce dénouement, tout dénouement du film, après avoir emmuré le chef-d'œuvre hein, et l'avoir escamoté au regard du public. Fraunhofer, en fait, peint très rapidement une sorte de... Alors, c'est pas une copie, hein, d'après ce qu'on voit, c'est un autre tableau. Un autre tableau qu'il va, lui, exposer au regard de ses amis, réunis au cours d'une petite cérémonie hein, de dévoilement, justement, du tableau. Petite cérémonie qui va être suivie d'une sorte de réception hein, ou de fête organisée dans le jardin de la maison des Fraunhofer. Cette cérémonie hein, de dévoilement du chef-d'œuvre laisse les spectateurs assez perplexes. En tout cas, ça déclenche pas des manifestations d'enthousiasme ou d'admiration éclatantes. Cette cérémonie, elle est suivie donc d'une sorte de réception dans le jardin des Fraunhofer et sur toute cette scène qui va vraiment marquer la fin du film. Plane une atmosphère assez étrange hein, qui nous éloigne beaucoup de la nouvelle de Balzac, atmosphère où réside une forme de légèreté, presque d'insouciance, hein, une sorte de badinage entre les personnages, une sorte de froideur aussi malgré tout entre eux. C'est une légèreté qui n'est pas non plus de la gaieté. Il y a une sorte d'atmosphère de fête triste dans cette fin de film avec une Marianne qui semble devenue totalement fantomatique, hein, désincarnée. Et cette fin, avec son caractère un peu factice, laisse une sorte de sentiment d'irréalité. Sur cette fin de film, dans cette fin de film est par ailleurs convoqué un autre modèle dont on n'a pas encore parlé mais qui est également très présent au début du film, c'est le théâtre. Comme avant le tombé du rideau, tous les personnages de la pièce se trouvent réunis. Et le modèle de la comédie, même s'il s'agit d'une comédie grinçante, est en fait explicitement évoqué par l'un des personnages. Il s'agit, je crois, de Nicolas dans ce dénouement. Et cette théâtralité donc présidait déjà à l'ouverture du film qui, si vous en souvenez, montrait Nicolas et Marianne se jouant la comédie en faisant semblant de ne pas se connaître et jouant la comédie en présence de deux Anglaises, hein, de deux spectatrices dont le regard justement venait ériger en fait le jeu de Marianne et de Nicolas en une sorte de spectacle intérieur. En tout cas, on voit que le prologue et l'épilogue du film composent à celui-ci une sorte de cadre à l'intérieur duquel le drame central, celui de la création et de ses affres, est enclos et quelque peu distancié. Légèreté et distanciation sont également mises en exergue par le titre de la version courte du film sorti en 1993, Divertimento, qui est aussi une allusion aux variations qu'un musicien s'amuse à faire subir à un thème. Alors, en guise de conclusion et au terme de cette trajectoire rivetto-balzacienne, je me contenterai de deux remarques. D'une part, la diversité des modèles picturales, littéraires, théâtrales convoqués par Rivette et puis les écarts majeurs qu'il s'autorise par rapport à sa source principale, dans un geste assumé de réinvention, invite à mettre l'accent sur le processus d'hybridation et de combinaison qui préside à cette très libre adaptation. Ce que fait Rivette, c'est d'une certaine façon du bricolage, notion que l'anthropologue Claude Lévi-Strauss relie d'ailleurs à la pensée mythique. Dans la pensée sauvage, Lévi-Strauss écrit « La pensée mythique combine les éléments pour construire un sens, comme le bricoleur, confronté à une tâche, utilise les matériaux pour leur donner une autre signification que celle qu'ils tenaient de leur première destination. » Ce geste de bricolage, qui recoupe d'une certaine façon une forme de dynamique mythique, me semble assez bien correspondre finalement au geste de Rivette. D'autre part, on l'a vu, la question de la vérité est concurrencée dans le film par la question du mensonge, et en définitive, c'est ce mensonge qui aura cours et qui assurera à l'œuvre sa valeur marchande. Comme le montre bien la satisfaction du collectionneur Porbus devant le faux chef-d'œuvre. Donc ce que suggère peut-être Rivette à travers ce dénouement, qui a par sa théâtralité des allures de trompe-l'œil, c'est que la quête d'absolu est certes constitutive de l'artiste et de son mythe, mais plutôt que d'y succomber et d'être dévoré par son propre mythe, l'artiste ne doit-il pas ruser avec les représentations et leurs codes et accepter la compagnie des hommes et les compromis, y compris ceux des circuits marchands. Entouré de sa femme et de ses amis dans la lumière du jour, le Frénopher de Rivette semble bien éloigné du chercheur d'inconnu de Balzac, qui se sera brûlé au feu prométhéen de sa quête impossible. Cependant, la lumière du jour est blafarde, et le dénouement rivettien a lui aussi des allures d'enterrement. « C'est ma première œuvre posthume », déclare Frénopher à propos du pseudo chef-d'œuvre, tandis que Porbus se frotte les mains. Vous l'avez entendu, c'est beaucoup plus cher. Ainsi, peut-être la belle noiseuse ne représente rien moins que ce que Balzac nommait le suicide de l'art. Voilà. Je regrette de terminer sur cette note un peu sépulcrale. Je vous remercie de votre attention.